Et la partie culture continue avec tout de suite le commissaire d'exposition, directeur artistique des Serpentine Galleries à Londres, Hans Ulrich Obrist.
France Culture, les matins d'été.
Renonce, si tu peux, chaque jour à un mensonge envers toi-même ou envers les autres, et petit à petit, sans t'en apercevoir, tu atteindras l'épiphanie. Ces mots sont ceux de la poétesse Etel Adnan, écrits sur l'une des dizaines d'affiches qui composent l'exposition It's Urgent, présentée cet été par la Fondation Luma à Arles et dont vous êtes le commissaire, le curateur, Hans Ulrich Obrist, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous à distance depuis Londres. Des dizaines d'artistes participent donc à ce projet, répondre à la question « Qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui ?» sur le format imposé de l'affiche. Pouvez-vous nous parler d'abord de la genèse de cette exposition, dont le principe est né au Danemark lors des dernières élections européennes ?
Oui, en fait, le projet, l'idée est vraiment née quand j'ai vécu à Paris au début des années 2000. Mmh. Et j'avais beaucoup de conversations avec Édouard Glissant. On a parlé de mondialité, on a parlé d'archipel, mais on a surtout aussi parlé de cette idée d'exposition. Et Glissant me disait qu'il faudrait, en fait, penser à des expositions qui peuvent sortir des musées, qui peuvent aller dans la société. Il m'a encouragé à d'autres formes d'engagement. Et c'était justement lui qui disait il faudrait revisiter cette idée peut-être de faire des expositions avec des affiches qui peuvent aller partout. Et moi, ça m'a fait penser évidemment à mes débuts quand j'ai commencé comme adolescent à être dans l'art en Suisse. Il y avait Joseph Beuys qui était très présent. Il avait cofondé le Parti Vert en Allemagne et il utilisait l'affiche comme médium. Mais c'est un peu comme ça que l'idée était là depuis longtemps de faire une exposition sur les affiches. Et quand l'invitation était venue du Danemark au moment des élections européennes, de faire un projet politique avec des artistes, on a invité 12 artistes pour ce projet au Danemark. Et après, l'exposition a évolué. Il y a eu de plus en plus d'affiches qui sont arrivées. On a décidé avec Maya Hoffman de faire cette exposition à Zurich dans l'espace de Luma Westbau, de la Fondation Luma. Mm-hmm. Et suite à ça, cet été donc à Luma à Arles pour une exposition qui va continuer à évoluer pendant tout l'été. Il y aura des nouvelles affiches.
Oui, voilà, c'est ça. Ça continue, ça se construit dans le temps. Il y a déjà beaucoup d'artistes qui participent et donc ça continue à arriver en ce moment même là, par rapport au mois de juin. Ça, elle s'est déjà agrandie cette exposition.
Oui, absolument. On a en fait toutes les semaines des nouvelles affiches qui arrivent. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une rencontre avec Sophie Kahl, avec Julien Creuset, mm-hmm. avec Nico Gravier, avec Ushonga, avec Philippe Areno, avec Sarah Sadik, avec Françoise Semiramotte, qui elle a réalisé une affiche ensemble avec Marie Scondé,
oui.
et aussi avec Jakob Knudstinsen et Laura Owens. Donc, tous ces artistes créent des affiches pendant le mois de juillet, mois d'août.
Et donc, il s'agit de répondre alors à cette question, qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui ? Pouvez-vous nous citer quelques réponses ? Qu'est-ce qui émerge ? Qu'est-ce qui ressort particulièrement dans les réponses à cette question ?
Oui, en fait, il y a beaucoup de thèmes. Il y a certains thèmes très, très récurrents, puisque les artistes sont libres vraiment à choisir le thème de leurs affiches. Il y a beaucoup d'affiches qui adressent le thème de l'écologie, par mm-hmm. exemple, Simone Fatal invite tout le monde à planter, à replanter des forêts. Il mm-hmm. Y a aussi Newton Harrison, un artiste pionnier de l'écologie, qui depuis les années 60 a fait des campagnes écologiques en tant qu'artiste, qui lui a en fait parle dans son affiche de l'idée de criminaliser le plastique pour éliminer le plastique. Donc l'idée de l'écologie. Et je voudrais aussi rendre hommage à Bernard Stiegler, qui d'ailleurs était venu l'année dernière à Arles pour les Luma Days et nous a beaucoup inspiré, parce qu'il parlait en fait justement de cette idée de l'anthropocène, et non seulement de l'anthropocène, mais de la néganthropocène, et il parlait de cette idée comment nous pouvions nous sortir de l'anthropocène pour vivre des vies qui valent la peine d'être vécues. Et donc, l'idée de l'écologie, de l'anthropocène, joue un rôle très important, en fait, avec beaucoup d'artistes. L'autre thème, c'est la mondialité de Glissant. En fait, Philippe Areno invite à téléphoner un numéro. Il y a un numéro qui est dans l'exposition, dans les affiches. C'est Si on téléphone ce numéro, on peut donc entendre la voix des doigts glissants. Il y a aussi, par exemple, le No to Prison Life de Stanley Whitney. Il y a aussi la justice, social justice, non, le thème de la social justice qui est très, très présent. L'inégalité est un thème très présent. C'est des thèmes récurrents. Mmh. Et on pourrait encore citer Etel Adnan, oui. Qui disait complètement au début du projet, elle disait « Le monde a besoin de l'ensemble, non de la séparation, de l'amour et non de la suspicion, d'un futur commun et non pas de l'isolation. » Je pense que ça, c'est des thèmes très présents dans cette exposition.
Le monde, la mondialité, Édouard Glissant, Hans-Ulrich Obrist, je vous propose de l'écouter parler du tout monde, c'était en 2010 sur France Culture avec Alain Weinstein.
Si nous considérons la Terre entière comme un élément fini, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Il faut considérer la Terre entière comme un infini. Et c'est pour cela que je dis le tout monde. Le tout monde, ce n'est pas, c'est pas seulement le monde entier. C'est le monde tel qu'il sera demain et au moment où il va nous réunir tous. Et ça, nous savons, mais nous ne sommes pas encore réunis. Le tout monde, c'est la projection du monde tel qu'il va nous réunir tous. Mais ce qui n'est pas encore fait. Et c'est ça notre horizon. Et cet horizon-là, il est infini. Nous avons toujours à le poursuivre. Et c'est pour ça que la poésie nous sert davantage dans ce domaine que les éléments de connaissance rationnelle et réaliste auxquels nous sommes habitués.
Édouard Glissant en 2010 sur France Culture, évidemment c'est tout à fait d'actualité, Hans-Ulrich Obrist, un moment aussi où se manifeste fortement la tentation du repli.
Oui, en fait, l'idée justement de la pensée de Glissant est très importante pour la vision de Maya Hoffman pour Luma, pour tout le projet.
Maya Hoffman qui est la fondatrice de la Fondation Luma, je précise.
C'est ça, et c'est en fait l'idée de l'archipel, non, que Glissant nous a parlé beaucoup de l'archipel. Il parlait de cet archipel américain qui est extrêmement important, puisque c'est sur cette île-là que l'idée de la créolisation, l'idée du blend of cultures, non, s'est en fait réalisée. Et comme disait Glissant, les continents rejettent les mixings, tandis que la pensée archipel rend possible qu'en fait, l'identité d'une personne, ni l'identité collective s'en fixe, comme dans la citation magnifique que vous venez de nous faire écouter. C'est justement pas une identité fixe, mais c'est cette idée que je peux changer dans l'échange avec l'autre sans diluer ou perdre mon sens d'une certaine façon. Et c'est en fait ça ce que l'archipel nous enseigne. Et Glissant voulait toujours faire des expositions, il avait cette idée même d'un musée pour Martinique, où il servait d'ailleurs comme modèle l'archipel. Il imaginait le musée ne pas comme un continent, mais comme un archipel, et donc non pas comme une synthèse qui, pour lui, était une standardisation, mais comme un réseau, non, de interrelations entre des traditions, avec des multiples perspectives. Et surtout, ce qui est très important, c'est l'idée qu'il voulait que ce soit un laboratoire. Un laboratoire, comme cette exposition d'ailleurs à Arles, est un laboratoire. C'est pas une exposition finie, c'est pas une exposition fixe, c'est une exposition qui, pendant beaucoup d'années, va continuer à évoluer.
Oui, c'est une exposition qui ne s'achève pas avec le décrochage.
C'est ça. Et après, il y a aussi cette idée du local et du global, puisque je pense que Glissant, l'idée de la mondialité est aussi très importante, puisqu'il disait qu'en fait, les forces homogénéisantes de la globalisation mènent à l'extinction, elles mènent à la disparition non seulement d'espèces, mais à la disparition de phénomènes culturels. Mais il voyait très très tôt aussi, donc il fallait résister, selon lui, ces forces homogénéisantes de la globalisation, mais il voyait très tôt aussi venir une contre-réaction contre la globalisation, qu'il voyait aussi très dangereux, avec des nouvelles formes de localisme, avec de nouvelles formes de nationalisme, de manque de tolérance, de séparation, justement d'isolation, comme dit Etel Adnan. Et donc Glissant disait, il faut résister ça aussi, et il faut, avec mondialité, des dialogues, des expositions ou des projets ou des idées, en fait, c'est vrai pour toutes les disciplines, qui peuvent créer un dialogue global, mais qui écoute les différents contextes, qui est à l'écoute, qui n'est pas homogénéisante. Et c'est pour cette raison qu'il m'a toujours dit qu'il faut faire des expositions qui vont pas d'une ville à l'autre, mais il faut qu'ils vont quelque part, ils changent. Et c'est exactement ce qui arrive, donc avec It's Urchin, puisque c'est une expo très différente à la fin, que l'exposition à Zurich, puisque justement, on invite des artistes, des artistes de Paris, de toute la France, qui ajoutent des affiches, comme j'ai dit, Julien oui. Creuset, Sophie Calme, mais après aussi des artistes de la région à Arles, Marie Scondé vit proche d'Arles, il y a aussi d'ailleurs Nico Gravier, qui depuis longtemps vit à Arles, des artistes de Marseille, comme Sarah Sadik, François Semiramont, et c'est en fait ça l'idée, très inspirée par Édouard Glissant, d'une exposition qui évolue et qui n'est pas envoyée d'une ville à l'autre.
Alors Marie Scondé, malheureusement, je n'ai plus sous les yeux son affiche, mais je sais que pour elle, ce qui est urgent, c'est de rêver, c'est ça ?
Oui, exactement. Elle nous invite à rêver. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a ce dialogue avec François Semiramont, l'artiste à Marseille, et ils s'échangent depuis plusieurs années. Ils ont une vraie amitié. Et donc, on a pensé que c'est beau que ce dialogue entre art et littérature peut se manifester dans une affiche qu'elle réalise ensemble.
Alors, cette exposition, c'est donc répondre à qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui. Pour vous, Hans Ulrich Obrist, qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui?
Mais ce qui est urgent, c'est les thèmes que j'ai déjà évoqués. En fait, c'est les thèmes de l'extinction, les thèmes de l'écologie. On a, avec la Serpentine d'ailleurs, lancé à Londres 50 campagnes d'artistes pour l'environnement, pour notre 50e anniversaire qui a lieu cette année. Ce qui est urgent, c'est les thèmes de la social justice, c'est les thèmes de l'inégalité. Mais après, il y a aussi 4 affiches de Paul Preciado que je voulais mentionner.
Allez-y, je vous laisse faire.
C'est en fait, selon philosophe Paul Preciado, il s'agit de sexualiser de manière critique le discours souvent naturaliste et conservateur en termes de politique sexuelle et de genre de l'écologisme. Et c'est donc ça qui a mené Paul Preciado à faire 4 affiches, inspirées d'ailleurs par Barbara Kruger, inspirées par Glenn Ligon ou les Guerrilla Girls. Et ça aussi, c'est important que les artistes peuvent réaliser plusieurs affiches. Vous voyez, donc par exemple, souvent les artistes ont commencé à joindre le projet quelques mois auparavant. Ils ont refait des affiches pendant le lockdown. Et c'est pour cette raison que dans l'exposition, on trouve souvent des diptyques, des triptyques, ou dans le cas de Paul Preciado, 4 affiches.
Alors, bien sûr, on pense tout de même, quand on vous entend parler, et même le principe même de cette exposition, on pense au monde d'après, dont il a été tant question au plus fort de la crise. On a parlé, on a imaginé ce monde d'après. Et puis, il y a eu ensuite ce moment où finalement, on a pu se dire que, en fait, il n'y aurait pas de monde d'après. Ce moment où, justement, toutes ces réflexions ont été qualifiées de naïves, un peu. Vous y croyez au monde d'après, Hans Ulrich Obrist?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi dans cette exposition. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a de solutions aussi proposées par des artistes. Des solutions, des messages très positifs dans cette exposition. Oui, je pense que l'espoir, en fait, comme Gerhard Richter a dit une fois, l'art est la plus haute forme de l'espoir.
De l'espoir, l'art vous donne de l'espoir, mais le monde d'après, c'est aussi le monde dans sa réalité au-delà de l'art. Et là, est-ce que vous avez aussi de l'espoir?
Oui, je pense que l'exposition aussi adresse en fait ces questions du contrat social de l'art. Et l'autre chose qui est peut-être important, et évidemment qu'il faut réfléchir quel rôle l'art joue dans la société. Si nous regardons, puisque moi dans les années début 2000, j'ai rencontré Helen Levitt, la photographe de la rue et de cinéaste aussi américaine. Et Helen Levitt avait, je sais pas, 85, 90 ans quand je l'ai rencontrée. Et moi j'avais 25 ans. Elle m'a dit, vous êtes très jeune, donc en fait la probabilité est très haute que pendant votre vie, il y aura un moment où vous allez expérimenter une très grande crise, comme elle a expérimenté pendant la Grande Dépression dans les années 30. Elle m'a justement parlé de ce plan Roosevelt, et donc surtout pendant le lockdown, je me suis plongé dans ce plan Roosevelt, qui a soutenu le New Deal, et qui a soutenu aussi l'art, et on a pu voir là l'importance aussi, dans un moment de crise, de l'art dans la société. Parce qu'en fait, pendant le New Deal aux États-Unis, des dizaines de milliers d'artistes ont été soutenus par le gouvernement américain. Et justement, non seulement été soutenus, mais ont été invités à travailler pour la société. Donc, il y a eu toute cette idée de l'art public. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut un nouveau New Deal et il faut réfléchir à ça.
Oui, vous avez signé dès le 30 avril dans le Guardian un appel justement pour un New Deal dans le milieu de l'art. Bon, pour le moment, on ne le voit pas arriver.
Je pense qu'il faut continuer à faire ce point et continuer à parler de ça tous les jours et essayer d'ancrer ça dans multiples pays. Parce qu'évidemment, la question, c'est aussi à quelle mesure ça peut être un plan transnational. Et évidemment, l'Union européenne est très, très bien placée pour faire ça, puisque ça serait la possibilité non seulement de le faire dans un pays, mais de le faire de manière transnationale. Donc, je viens justement d'écrire une lettre à Ursula von der Leyen à ce sujet.
D'accord. Alors, il y a eu pendant le confinement toutes ces propositions culturelles en ligne. Je voulais qu'on parle de ça aussi parce que certains ont pu avoir peur que cela modifie les comportements, que l'on prenne l'habitude de ce rapport virtuel et gratuit aussi à l'art. Vous, ça ne vous fait pas peur, ni le virtuel ni le gratuit?
Moi, je pense qu'il y a en réalité, comme vous dites, un danger que, avec cette idée qu'on n'expérience plus que l'art avec, non seulement l'art, même toutes les meetings, toutes les rencontres, tout le travail se réjouit avec un écran. Donc, c'est pour cette raison que d'ailleurs, avec la Serpentine, pendant tout le lockdown, on a réalisé des projets qui ont essayé de dépasser l'écran. Donc, on a relancé un projet Do It. Et Do It est d'ailleurs très lié au projet d'Arles.
Rappelez-nous Do It, le principe.
Oui, Do It, c'est une expo qu'on a lancée en 93. C'est né d'une discussion avec Bertrand Lavier et Christian Boltanski. Et c'est une idée qu'une exposition, en fait, est réalisée avec des mots d'emploi. Et donc, les artistes écrivent des mots d'emploi. Et ça peut être réalisé, c'est open source, et ça peut être réalisé partout dans le monde. Les œuvres peuvent être interprétées de manière différente. Et on a réalisé, en fait, pendant le lockdown, que tout d'abord en Chine et après en Italie, quand les premiers lockdowns ont commencé, que beaucoup de gens ont commencé à poster des œuvres de Do It. Ils ont réalisé, exemple, on peut réaliser multiples signatures d'un messager, on peut faire une sculpture avec le ballet inspiré par Franz West, on peut sourire à quelqu'un inspiré ou à quelqu'une inspiré par justement par Louise Bourgeois. Et toutes ces Do It instructions, on les a retrouvées sur Internet pendant le lockdown. Donc on a décidé avec multiples institutions de relancer en fait Do It et refaire toute une série de nouvelles instructions. Ça a commencé par la Serpentine, après avec Calder Project en Australie, le Châtelet à Paris. Et c'est en fait beaucoup de ça nous a mené au-delà de l'écran, puisque justement c'est Do It, donc ça nous sort de ça. Et après on a aussi continué nos campagnes justement environnementales avec la Serpentine. Et pendant tout le lockdown, on a en fait travaillé avec Jane Fonda, avec Judy Chicago, avec Svoon, sur le projet Créer l'art pour la Terre, où 7000 artistes jusqu'à maintenant ont participé. Et ça, de nouveau, était des actions. Donc, ça nous a mené au-delà de l'écran, en fait.
Donc, vous n'avez pas peur de cette modification des comportements qui pourraient être durables et qui pourraient faire que, on irait moins voir des concerts, on irait moins au théâtre, on irait moins au musée, dans les galeries?
Non, mais Manu, je pense que c'est très important, justement, l'expérience d'aller voir des expositions. Et c'était un grand moment pour nous avant-hier à Londres, puisque nous avons, après 4 mois et demi, réouvert la Serpentine, puisque on a fermé au mois de mars. Et on a réouvert, et c'est avec social distancing. Donc, il y a moins de visiteurs. Et on a dû réinventer, d'ailleurs, l'exposition avec Southay, puisque, et c'est intéressant, d'ailleurs, en termes de technologie, puisque Southay a fait une exposition qui est une expérience de la réalité mixte. En fait, elle a créé un film qui a aussi été montré au Centre Georges Pompidou à Paris auparavant. Et après, Nova, un film de science-fiction. Et suite à ça, elle a créé une expérience de réalité virtuelle et une installation physique, donc mélangeant toutes ces différentes réalités. Évidemment, quand on a décidé qu'on réouvre la galerie, on ne pouvait pas montrer la réalité virtuelle, puisque ça implique un casque, non, et qu'on toucherait, et donc avec ça, enfin, on a transformé la réalité virtuelle justement en réalité augmentée, augmented reality. Et maintenant, c'est tant qu'une œuvre AR, et c'est une expérience qu'on peut vraiment uniquement faire dans l'espace, puisque on a une installation que l'artiste a fait, elle a reconstitué son atelier, sa cuisine d'ailleurs, de Pékin, physiquement, à la Serpentine, on expérience une installation totale. Et une fois qu'on clique son mobile device, son téléphone, sur cette cuisine, apparaissent en 3D ces œuvres qu'elle a créées de la réalité augmentée. Non, c'est très important, l'idée de l'expérience d'une exposition, ça ne peut pas se remplacer.
Et en même temps, voilà, vous parlez aussi souvent des formats, vous dites qu'il faut inventer des formats généreux et mobiles. Le principe aussi avec l'exposition, avec les affiches, It's Urgent, c'est qu'on peut les télécharger, les mettre justement, les poster sur les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, il y a un algorithme qui fait qu'en fait, quand on télécharge, on choisit pas forcément celle qu'on télécharge. Donc il y a quand même aussi une part de hasard. Quand vous dites des formats généreux, c'est ça, par exemple, c'est le fait de pouvoir les garder avec soi, ces affiches, et même de les partager.
Oui, absolument. C'est qu'à Zurich, par exemple, les visiteurs, ils ont pu prendre les affiches, et justement maintenant de nouveau, puisque c'était difficile dans la situation actuelle, justement, de toucher les affiches, d'avoir des piles d'affiches. Donc, on a décidé de faire ça digitalement pour Arles. Donc, à Arles, comme vous dites, les visiteurs peuvent downloader
télécharger,
oui. Et c'est non seulement ça, mais aussi l'idée, évidemment, c'est que cette exposition pourra voyager. Donc, il y a déjà 4-5 villes qu'il veut montrer des affiches. On va inviter des artistes locaux dans ces différentes villes.
Et pour c'est quoi la prochaine ville?
On pense à un endroit en Asie. Donc, ça va être en Asie le prochain endroit. Et éventuellement aussi en Nouvelle-Zélande. Et l'idée, c'est évidemment que dans ces différents contextes, après l'exposition, va de nouveau apprendre. Elle va écouter, elle va continuer à c'est l'idée aussi qu'une exposition écoute. Je pense que c'est important. Et évidemment aussi, c'est une exposition qui est sustainable. Je ne sais pas en français le mot soutenable, sustainable, qui est écologiquement sustainable,
oui.
Soutenable.
Soutenable, oui, oui.
Dans le sens où il n'y a pas de transport.
Durable, oui, voilà.
Il n'y a pas de transport. Il y a en fait pas de crates qu'il faut construire. C'est une exposition qu'on peut digitalement transmettre. Elle peut être téléchargée dans une autre ville, imprimée localement, évoluée localement et exposée. Et c'est d'ailleurs important aussi qu'il y a une architecture de l'exposition, puisqu'on travaille avec les graphistes et les designers normes de Zurich. Mm-hmm. Et pour chaque installation, ils développent vraiment une installation avec des pauses, avec des intervalles, avec des silences d'ailleurs.
Eh ben merci, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup, Hans-Ulrich Obrist. Cette exposition It's Urgent, donc cet été, proposée par la Fondation Luma à Arles, jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis donc la Serpentine Galerie qui a rouvert. Merci à vous d'avoir été avec nous.